Aldebert, maire de Vinassant, on reste d'ailleurs un tout petit instant encore, si vous le voulez bien, monsieur le maire, sur votre commune. On est dans une période où il y a beaucoup, alors ce qu'on appelle les mouvements sociaux, des grèves, avec des décisions à prendre souvent par le maire, à savoir, bon, par exemple, les instituteurs, les professeurs des écoles font grève, et il y a des garderies qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, et que font les parents? Alors, comment avez-vous géré cette situation, vous, à Vinassant?
Alors, nous, on a pris le parti à Vinassant, tout d'abord, de garder le service au public le maximum. Faire le maximum pour garder ce service au public. Donc le service minimum a toujours été mis en place à Vinassant. Il y a toujours eu de la cantine et de la garderie pendant les grèves. Cependant, on a décidé sur la commune, donc au conseil municipal, de réfléchir sur une action, sur le fait que la majorité, la totalité du conseil municipal n'approuve pas cette réforme des retraites. Et ou du moins la façon dont elle est présentée. Moi, je pense que effectivement, la facilité, c'est de toucher la durée de travail, et il me manque un peu des réflexions qui nous auraient été amenées pour trouver d'autres solutions, des plans B ou des plans C. Donc, oui, on veut maintenir ce service au public parce qu'on est avant tout des élus de la commune de Vinassant, et on fait tout pour ne pas pénaliser les gens qui vont travailler, etc. Mais on réfléchit à voir de quelle manière on peut faire passer quand même l'info en disant, mais non, qui ne dit mot consent, ça ne veut pas dire que parce que on ne fait pas grève à Vinassant, la commune est toujours fonctionnante, qu'on valide et on est d'accord avec cette réforme.
Et comment allez-vous l'exprimer? Sous forme d'une motion?
Peut-être sous forme d'une motion, d'une délibération, peut-être donc avec une action sur la commune. On ne sait pas encore, mais dans tous les cas de figure, on veut essayer de trouver cet équilibre, de dire à nos Vinassanais, on fait tout pour rendre ce service au public, mais c'est pas parce qu'on le fait que l'on valide et qu'on soit d'accord avec cette réforme qui, à mes yeux, il me manque des explications.
Oui, voilà. Donc il y a un débat qui est ouvert sur la commune et au conseil.
Tout à fait. Et ça a été, il y a déjà eu un premier débat avec validation mercredi dernier.
Alors Didier Aldebert, vous êtes conseiller. Alors j'allais dire conseiller général, c'est l'ancienne dénomination. Ça échappe parfois. Conseiller départemental chargé du tourisme. Alors le tourisme, on sait que il y a un office, par exemple, soit dans les communes, soit aujourd'hui à Narbonne, le Grand Narbonne, avec Côte du Midi. Donc, il y a un touriste qui est pris en charge par la ville ou par l'agglo, puis par le département, puis aussi par la région. Comment arriver à concilier ces strates, en quelque sorte?
Alors, c'est la difficulté de ce que l'on appelle les compétences partagées. Et donc, le tourisme est une compétence partagée donc par les collectivités. Ça peut être les villes, les agglos, les départements, la région et même l'État. Donc, j'ai l'honneur de présider donc l'Agence de développement touristique de l'Aude, l'ADT, où nous avons, et donc c'est notre feuille de route, que nous a donnée la présidente et à laquelle j'adhère totalement, c'est de donner une stratégie touristique pour le département de l'Aude. En clair, là on a des actions, on pourrait dire que nous sommes les fédérateurs, ou du moins c'est notre objectif, notre challenge, la fédération, on va dire, audoise du tourisme, c'est-à-dire que l'on travaille avec les offices de tourisme, on travaille avec Côte du Midi, on travaille avec les offices de tourisme donc de Carcassonne, de tout le département de l'Aude, pour amener, on va dire, cette vision de l'Aude un peu plus loin, ailleurs. Par exemple, là, on va au Salon de l'agriculture cette année, là, début mars. C'est la première fois que l'Aude va être représentée, va être présent au Salon de l'agriculture. Première fois en tant que collectivité, en tant que territoire, avec un stand qui va être une copie, on va dire, d'un village audois.
Mais donc purement audois, quoi.
Purement audois. Mmh. Et à l'intérieur, les visiteurs du salon d'agriculture, plusieurs dizaines, centaines de milliers de visiteurs sont attendus, comme tous les ans, vont découvrir tout un territoire, tout un département, avec toutes ses spécificités, les plages de Côte du Midi, mais également les châteaux sentinelles, également, et montrer à Paris que le département de l'Aude est une petite France, et qu'en une heure et demie de route, ouais, on peut tout découvrir.
C'est-à-dire que c'est au salon de l'agriculture, mais vous y allez avec d'autres valises.
On va au salon de l'agriculture, parce que là, c'est pareil. Qu'est-ce que viennent voir les visiteurs au salon de l'agriculture? Effectivement des producteurs, effectivement des animaux d'élevage, mais ils viennent un peu découvrir, visiter, rêver, découvrir un territoire. Aujourd'hui, et ça c'est l'après-Covid, c'est prouvé, le tourisme est en train d'évoluer.
C'est un peu réorienté.
Il se réoriente, on va dire, vers l'authenticité. Il se réoriente vers ce qu'on appelle le tourisme vert. Et aujourd'hui, nous avons des atouts dans l'Aude qui sont indéniables. On a des lieux à découvrir dans l'Aude qui correspondent au tourisme d'aujourd'hui. Je prends toujours par exemple, quand on va faire du tourisme, si on va en Corse, on va voir effectivement les belles plages. Mais on va également rechercher cette authenticité, cette rencontre sur la place d'un village.
Avec l'habitant. Oui,
avec l'habitant qui va raconter une anecdote. Et nous, sur le département de l'Aude, on les a ces villages à l'intérieur sous les platanes où on va faire des rencontres, où le touriste peut faire des rencontres qui sont exceptionnelles en écoutant des anecdotes qu'il ne trouverait pas dans des guides X ou Y, mais ils vont découvrir cette authenticité.
Et qu'en est-il également de l'œnotourisme? Alors là où on mélange un peu profession, richesse économique et tourisme.
Alors là c'est pareil, c'est justement au salon de l'agriculture où l'œnotourisme ou l'agritourisme va être mis en avant.
Il va jouer un rôle prédominant.
Ah, il va jouer un rôle prédominant parce que justement donc le salon de l'agriculture, nous y allons avec nos partenaires avec qui nous avons monté dans ces stands et toute cette réflexion. Le gros partenaire indéniable et qui nous a mené toute sa technicité, c'est la Chambre d'agriculture. Mmh. La Chambre d'agriculture va être présente avec les éleveurs. La viticulture va être très très présente. Avec les différents crus présentés.
Voilà, bon, alors bon salon de l'agriculture à nos Audois, de manière autonome, vous l'avez souligné, Didier Aldebert. Alors passons maintenant à une importante casquette, entre guillemets, que vous avez. Alors c'est votre profession, vous êtes donc président et le directeur général d'Alenis, Société d'économie mixte du Grand Narbonne. Alors c'est peut-être un jargon qui mérite d'abord une explication.
Alors oui, c'est vrai que... Tout d'abord, les sociétés d'économie mixte, elles ont été créées en 47.
Donc c'est pas né d'hier.
Ah non, c'est pas né d'hier. Et c'est un modèle économique qui a été créé par le législateur pour reconstruire la France après-guerre. Donc le pouvoir public a demandé des fonds privés pour monter un modèle économique pour reconstruire, on va dire, cette notre territoire, notre France d'après-guerre.
Oui. Alors justement, une société d'économie mixte ou une SEM, pour reprendre le sigle, c'est quoi? C'est public, c'est privé,
c'est public-privé, c'est-à-dire vous avez un collège de public, c'est-à-dire de collectivité, et un collège du secteur privé. En clair, c'est les collectivités vont demander à cette société de mettre en place les politiques réfléchies, voulues, et la société, elle, va répondre à cette demande politique, mais avec son côté privé d'une obligation de résultat derrière. Je rappelle que ce sont des SA, ce sont des sociétés de droit privé, avec du personnel de droit privé, avec une obligation de résultat non subventionnable.
Oui, voilà. Alors c'est une SA, c'est donc une entreprise privée, vous le soulignez, Didier Aldebert. Oui. Alors une petite parenthèse, il n'y a pas très longtemps, au conseil municipal de Narbonne, un membre du conseil d'administration a démissionné parce qu'il ne voulait pas respecter l'obligation de confidentialité à laquelle apparemment vous êtes soumis.
Ah oui, alors comme nous, alors tout d'abord, je tiens à remercier le travail de Monsieur Rudan là pendant les années où il a travaillé avec nous. Effectivement, il y a un règlement intérieur qui a été voté, présenté, dans lequel il y a un article sur lequel on demande une confidentialité de ce qu'il se dit et se présente dans les conseils d'administration.
Oui, mais alors pourquoi aujourd'hui et pas hier?
Mais ça toujours, c'est-à-dire que ça toujours.
C'est
est,
que ça n'était pas appliqué.
Et ça toujours, si, ça a toujours été appliqué, mais là mais ça a été mis sur un règlement.
Oui, alors c'était noir sur blanc.
Voilà, là ça a été mis sur un règlement, c'est la loi 3DS qui nous impose d'avoir les règlements intérieurs et très précis. Alors, cette confidentialité, effectivement, mais je comprends tout à fait cette réflexion, on va dire, de cet administrateur,
de Monsieur Rudan.
De Monsieur Rudan. Mais Il est vrai qu'on est dans un conseil d'administration de droit privé où on est dans le champ concurrentiel. Donc, il y a des décisions, et comme on travaille en toute transparence, il y a des décisions, des axes, on va dire, politiques d'entreprise, c'est-à-dire on prend tel axe, on propose telle solution, etc., qui restent confidentielles jusqu'à ce que on puisse avoir le marché.
Oui, donc c'était dans ce sens-là. Pour lutter au niveau concurrentiel. Justement.
C'est pour lutter au niveau concurrentiel, où comme dans toutes les entreprises de droit privé, on se doit une confidentialité sur la politique et ou les axes que l'on prend sur tel ou tel projet à venir.
Faute de quoi, on peut se griller en quelque sorte.
Faute de quoi, effectivement, on peut se griller. On est dans un champ concurrentiel.
Alors entrons maintenant dans le concret. Qu'est-ce qu'elle fait cette société d'économie mixte à l'Élysée ? Donnez-nous quelques exemples les plus marquants.
Alors, les plus marquants, dont vous connaissez tous les berges de la Robine, il y a eu l'épisode fouilles archéologiques.
Qui change de jour en jour.
Oui, oui, qui est lancé. Bon, il y a eu l'épisode des fouilles archéologiques, on a eu l'occasion d'en discuter.
Avec la nécropole.
La nécropole, voilà, donc là, ça avance. Donc là, c'est la société Alenis qui le gère pour la ville de Narbonne, avec des futurs projets à venir sur cette ZAC. On travaille.
Combien de logements là?
C'est 1000 logements.
Prévus à terme.
À terme. Mmh.
Combien aujourd'hui sont sortis de terre?
Aujourd'hui, on doit être à 250 à peu près.
Ah oui, donc il reste encore beaucoup à
faire.
Oui,
il y a beaucoup à faire. Et une ZAC, c'est sur une durée longue, c'est 15 ans. Donc, entre ce qui est écrit au début et ce qui va être réalisé encore dans quelques années, ça peut évoluer. Mmh. Voilà, il y a des projets qui peuvent évoluer. En clair, ce sont des cadres qui sont définis, des cadres définis dans lesquels on peut évoluer libre.
Voilà. Oui. Parmi les événements, parce que à l'Élysée, on organise également des événements. Il y a la fameuse foire de printemps, qui est très ancienne, mais bon, d'abord qui a été mise à mal par le Covid, par le confinement, qui reprend cette année, mais certaines rumeurs courent. Qu'en est-il de l'avenir de cette foire ?
Alors, Alenis, donc en délégation de services publics, le parc des expos, jusqu'au 31 décembre 2023.
Oui, donc de cette année.
Cette année, la foire va avoir lieu. Je pense que c'est une foire qui va continuer, qui continuera sur Narbonne. Mais comme tout événement, ça peut évoluer. Elle a changé, elle a eu plusieurs vies, cette foire. Elle en aura peut-être d'autres. Et là, bon, je le dis, c'est tout à fait personnel. Je pense que c'est ce type d'événement, il faut qu'il évolue. Il faut qu'il évolue, la façon de commercer ou la façon d'acheter a changé, donc il faut se mettre, on va dire, au diapason de ce que demande le public. Une fois, le succès d'une foire, c'est le public qui le fait.
Et c'est-à-dire que la prochaine, qui va avoir lieu en avril-mai, là, oui, dans quelques semaines, sera un peu différente déjà des précédentes?
Mais on travaille avec les services du Grand Narbonne à ce que elle soit différente dans ce que l'on propose à l'intérieur en animation pour répondre, on va dire, aux besoins d'aujourd'hui. Oui, tout à fait.
Et alors, le parc des expositions, là encore, bon, la presse écrite faisait état récemment d'un prochain casino ou d'un projet de casino. Qu'en est-il aujourd'hui de par votre connaissance des dossiers?
Alors, aujourd'hui, effectivement, la ville donc à montrer et définir un intérêt à ce qu'un casino, parce qu'il y en a la possibilité sur Narbonne, hein, d'avoir un casino à Narbonne. Aujourd'hui, un sourcing est fait pour savoir si des casinotiers, eux, peuvent trouver un intérêt à s'installer sur place. Et donc, il y a, à l'heure où je vous parle, plusieurs casinotiers qui sont intéressés à venir s'installer, du moins à échanger. Et ce qui est important, et pour la ville et pour l'aménageur que je représente, c'est de savoir s'il y a, eux, portent un intérêt à ce qu'il y ait un casino. Donc aujourd'hui, on en est là.
C'est une phase de prospection aujourd'hui.
C'est une phase de prospection et que je trouve tout à fait cohérente dans le sens que, avant de lancer quelque chose, c'est de voir, est-ce qu'il y a un intérêt
Un intérêt
à ce qu'il y soit. Oui, voilà, oui. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, on en est là.
Mais dans le cas où ça aboutirait, alors, la foire, les prochaines foires, où se déroulerait-elle?
Alors ça, c'est pas encore défini, mais ce quartier va totalement se métamorphoser avec que plusieurs espaces publics et d'équipements publics. Donc la foire peut peut-être demain, mais là je n'ai pas plus d'infos à vous donner, mais peut rester sur un territoire, sur ce territoire-là, en bougeant sur les différents espaces publics et équipements publics existants. C'est justement là, quand je disais, il faut qu'elle soit repensée, elle peut être repensée.
Oui. Alors on va s'arrêter là-dessus et reprendre le temps de penser pendant une pause publicitaire. On se retrouve pour une troisième partie d'Idéal de Berre.
Merci.